11.
Radio FR. Service compris.
Service compris.
50 ans de suffrage féminin, un anniversaire que Radio Fribourg fête dans de nombreuses émissions sous divers angles. L'angle sociétal, souvenez-vous, avec la responsable du bureau de l'égalité homme-femme qui était mon invitée il y a quelques semaines. On a eu l'angle historique hier avec Alain-Jacques Tornard. Les années de combat qu'il vous a fallu, mesdames, pour obtenir ce droit de vote qui nous semble tellement évident aujourd'hui. Et puis, aujourd'hui, place au volet psychologique, place à l'étape... bien-être. Avec vous, Lise Jean-Bourquin, bonjour.
Bonjour, Mike.
Soyez la bienvenue.
Merci.
Ça va bien ?
Oui, je vais bien.
Bon, c'est parfait. Vous êtes psychokinésiologue. Vous n'étiez pas née il y a 50 ans, Lise. Vous n'avez donc pas connu ce combat que les dames à l'époque ont dû mener pour se faire entendre. Votre combat, vous, aujourd'hui, ce serait lequel, alors ?
Alors, mon combat, aujourd'hui, si on peut parler de combat, ce serait peut-être que les femmes cessent de se cacher derrière une poignée de militantes, mais que chacune puisse s'éveiller et trouver en elle la posture claire, ajustée, alignée, et retrouver surtout confiance et juste estime d'elle-même.
On le verra plus en détail d'ici 9h, mais être une femme, c'est tout sauf une faiblesse, Lise. Hein ?
Ah bah évidemment.
Évidemment.
C'est clair. Il faut qu'on démantèle ses croyances.
Voilà. Ah vous êtes là pour ça, Lise, ça va bien. On va se donner une petite heure jusqu'à 9h sur Radio Fribourg, 079 127 70 60. Et là, je lance un appel à toutes les auditrices pour qu'elles témoignent de leurs conditions sur Radio Fribourg. C'est quoi pour vous être une femme en 2021 ? C'est quoi qui vous plaît ? C'est quoi au contraire qui vous fait bondir d'indignation ? Cette émission, service compris, nous la faisons chaque semaine pour vous, avec vous, de l'individu L à la collaboration collective. C'est le titre très joliment choisi par Lise Jean-Bourquin. On se retrouve après Gloria Gaynor et I Will Survive Fribourg.
Radio FR. Service compris.
Service compris.
Être une femme en 2021, de l'individu L à la collaboration collective. Cette émission, je la fais avec Lise Jean-Bourquin ce matin et avec vous tous, évidemment. Hein, le WhatsApp de Radio Fribourg, 079 127 70 60 avant Lise de découvrir peut-être les premiers messages du jour. C'est le constat que vous avez fait en préparant cette émission. Beaucoup de femmes sont fragilisées par des épreuves de vie, des épreuves qui ont parfois détruit leur capacité à croire en elles. C'est terrible, hein, ces épreuves. Est-ce qu'elles arrivent ? Est-ce qu'elles peuvent arriver dès la petite enfance déjà, vous pensez ?
Oui, bien sûr. Moi, je pense que tout ce qu'on vit, minute après minute, laisse une trace à l'intérieur de nous. Ça, c'est une évidence. C'est la base de mon travail de psychokinésiologue. Par contre, là, ce que je pense très intéressant de mettre en évidence, c'est notre mémoire individuelle, évidemment, sur notre vie, sur tout ce qu'on a vécu, mais aussi la mémoire collective, la mémoire qu'on porte de toute cette histoire qui lie ou qui, ou qui sépare les femmes entre elles. En fait, on est parti quand même, il y a des milliers d'années, à des femmes qui étaient guérisseuses dans les villages, qui contenaient un savoir qui était sacré, elles étaient respectées. Le savoir, la sagesse se transmettait de mère en fille. On avait d'ailleurs des cercles de femmes où les femmes se réunissaient dans des temples avec des prêtresses lors de leur lune, donc lors de leurs règles.
C'est presque la sorcellerie, ce que vous nous racontez là.
Ah là là, vous verrez si vous m'amenez au bûcher après.
Non, puis, jamais.
Les hommes, finalement, ils avaient aussi leur mode de transmission, leur temple, leur savoir. Ouais. C'était une égalité, il n'y avait pas un sexe qui était plus fort que l'autre, mais bel et bien différent. Et puis, il faut savoir que tant le savoir des femmes, tant le savoir des hommes était vital pour la société, car il était complémentaire. Et puis après, on a eu cette harmonie qui a été rompue, où on a commencé à avoir peur du savoir des femmes, qui était peut-être plus intuitif, plus instinctif, plus inné. Et puis, c'est là que les... Malheureusement, certains hommes d'influence se sont mis à douter, à craindre, et c'est là qu'on a eu cette fameuse chasse aux sorcières. Hein. C'était un peu la peur de l'inconnu.
Vu de l'extérieur, on pense souvent que c'est uniquement une histoire religieuse, mais bien plus que ça derrière. Hein.
Alors, c'est
une peur d'espèce de concurrence, on va le dire. Hein.
Complètement. Et puis, on avait vraiment une torture des femmes qui était abominable, et ce qui a poussé, finalement, les femmes à se dénoncer entre elles aussi. Et c'est là qu'on a l'harmonie, la solidarité aussi entre femmes qui a été rompue. Et c'est là qu'on a vu apparaître, finalement, la jalousie qu'on connaît encore bien aujourd'hui, la compétition, la comparaison, les critiques, les commérages, etc. Et puis, moi, je pense que là, aujourd'hui, les femmes ont besoin, enfin, l'être humain, je pense, il faut arrêter de toujours faire des généralités femmes, hommes, mais je pense qu'on a besoin d'amour, de lumière, mais de guérison de tout ça. Et puis c'est vrai que cette mémoire collective, on la porte, ça a installé des croyances aussi chez les femmes que, ben voilà, qu'être femme c'est fragile, enfin une femme c'est fragile, c'est faible, et à contrario, un homme c'est un bon guerrier, fort, puissant, qui doit tenir le coup. C'est pas forcément plus facile à porter, ah, hein, cette croyance-là.
Les fameux clichés. Je prévois, on en parle un peu plus tard, les clichés, mais bon, on les a déjà abordés maintenant, il n'y a pas de souci. Je voulais quand même revenir à ma question, là, hein, ces blessures que les femmes peuvent subir comme ça au fil des ans. Hein, on a dit que ça pouvait remonter à la petite enfance, hein, vous avez répondu fort bien en disant que voilà, quand on a une blessure, ça reste ancré. C'est pour ça, des fois, il faut suivre des séances de psychothérapie. À l'école, Lise, est-ce que vous avez l'impression qu'à l'école, c'est plus difficile d'être une fille aujourd'hui encore qu'un garçon ?
J'ai de la peine à dire si c'est plus difficile, plus facile. Ce que je vois, c'est que c'est différent. Clairement, les filles ne réagissent pas à la même chose que les garçons. Et en quoi ça doit être plus, moins, comparé, etc. Je pense qu'il faut plutôt voir l'être humain comme unique. Que ce soit fille, garçon, chaque être est unique et a sa façon d'être touché par les choses qui est différente que ses pairs. Par contre, ben, c'est vrai qu'on a beaucoup de, comment dire ça, d'a priori, beaucoup de clichés sur la petite fille fragile qu'il faut protéger, puis sur le garçon qu'il faut endurcir. Malheureusement, c'est encore comme ça, oui.
Toujours ces clichés. Je ne sais pas si vous lisiez le Club des Cinq quand vous étiez petite. Vous êtes peut-être un peu jeune. Hein.
Je suis peut-être un peu jeune.
Voilà, moi, j'ai eu mon enfance dans les années 70. C'est vrai que c'est des bouquins qui ont accompagné toute mon enfance. Aujourd'hui, ça m'arrive encore de temps en temps de les relire et je me rends compte comme c'était terriblement sexiste à l'époque. Hein. Vous aviez dans le Club des Cinq la petite fille Annie. Je crois que oui, c'était son prénom, Annie. En fait, elle, son grand plaisir, dès que toute l'équipe partait en vacances, bah, elle, son plaisir, c'était de se mettre à la popote, c'était de préparer un bon repas pour tout le monde. Et en face, ben, vous aviez les garçons, vous aviez Claude qui était le garçon manqué, qui était une fille. Ces symboles sexistes aujourd'hui, vous pensez qu'ils ont encore, cours quelque part?
Ah là là, moi je trouve que c'est compliqué.
Je vais vous faire lire le Club des Cinq.
Voilà, bon, déjà ça, c'est pour ma culture, je suis ouverte à tout, ça c'est sûr. Moi je pense qu'il ne faut pas tout mélanger non plus, et puis que moi, j'ai un petit peu de la peine avec le fait d'être indignée partout. Sous prétexte qu'on met en avant un cliché ou qu'on a peut-être un regard qui est différent sur certaines choses, ou hop, on sort les armes et puis on dit non, c'est sexiste, il y a la grande féministe qui doit se montrer combattante et tout. Là, moi, je suis un petit peu contre ça. Je me dis, maintenant, il appartient à chacune d'entre nous d'aller explorer ses blessures pour se renforcer, pour retrouver confiance, pour avoir une posture alignée. Et finalement, quand on est comme ça, on se respecte déjà un nous-mêmes, et deux, ça nous pousse à nous faire respecter. Mais pas dans la force, dans l'alignement.
Plutôt voilà, quelque chose qui vient tous les jours, plutôt que descendre comme ça dans la rue. On a bien compris votre optique, Lise. Un témoignage, vous êtes d'accord ? Fabienne qui dit « Je suis maman au foyer, fière de l'être. Je comprends et je respecte toutes ces femmes qui ont fait le choix de travailler et de faire carrière, mais par pitié. J'aimerais qu'elles respectent aussi mon choix de rester à la maison et de voir grandir mes enfants, car je le répète, c'est mon choix. J'en suis fière. » Je trouve intéressant ce message de Fabienne.
Oui. Hyper intéressant et je la remercie beaucoup parce que ça va me lancer sur quelque chose que je voulais vraiment évoquer, c'est que ce lien qui a été rompu entre les femmes maintenant, il a comme empreinte aujourd'hui sur un jugement critique qui est énorme, mais finalement entre les femmes, entre elles, là c'est, on laisse la gente masculine de côté, mais les femmes entre elles, mon Dieu, mais est-ce qu'elles peuvent être jugeantes? Et typiquement, on va poser quoi comme question à une femme? Ah oui, t'es à la maison, t'as combien d'enfants? Si elle en a qu'un, ah, puis tu prévois un deuxième. Et puis si elle en a trop, ah bah dis donc, c'est beaucoup de boulot. Et puis si elle a pas d'enfants, ah bon, puis tu comptes y mettre quand? Et puis si elle travaille pas, ah bon, t'es pas frustrée? Et puis si elle travaille purée, tes
on
enfants...
On dirait que vous avez déjà entendu ce genre de remarque, vous. Hein,
c'est oppressant.
C'est oppressant, vraiment.
Et maintenant, vraiment, je pense que si chacune d'entre nous peut se connecter à sa foi, à sa confiance, à sa force, et puis ça va nous permettre d'assumer nos choix aussi sans arrêt se sentir jugé et oppressé par l'extérieur.
079 127 70 60, le WhatsApp de Radio Fribourg. On aura un autre témoignage tout à l'heure, vraiment mignon. Hein, c'est Denise qui a 75 ans, qui a connu la Suisse avant le droit de vote des femmes. Et elle n'était pas beaucoup plus malheureuse à l'époque. On entendra aussi le témoignage de Pierre, hein, qui est un papa qui s'inquiète de l'hypersexualisation du corps de la femme. Hein, lui qui a une grande fille à la maison. Vos messages sont les bienvenus. 079 127 70 60, être une femme en 2021, de l'individu elle à la collaboration collective. Ça continue après l'info de 8h30. Voici Vianney avec Pour de vrai, c'est le nouveau Vianney 36.
Service compris.
Service compris.
Ça va toujours bien, Lise Jean Bourquin ?
Je vais très bien.
De l'individu elle à la collaboration collective. Comment vous avez choisi ce magnifique sujet ? Tellement en rapport avec l'actu du moment, 50 ans de droit de vote de femme quand même.
C'est ça. Ouais. Écoutez, j'étais inspirée parce que on parle beaucoup de mouvements collectifs, de manifestations, de rébellions, de grèves, etc. Mais toujours dans le collectif. Et pour moi, c'est vraiment capital que l'action elle se fasse d'abord en individuel. Qu'il y ait d'abord un travail d'introspection, un travail de renforcement intérieur pour avoir aussi après plus de pertinence au niveau des mouvements collectifs.
Vous le dites d'ailleurs très souvent dans cette émission, la confiance en soi, personne ne peut vous la donner. On l'a construit soi-même.
Hein. Exactement.
Vous disiez tout à l'heure, même que vous êtes à un moment un tout petit peu énervé, Lise, hein, quand vous parliez de ces gens qui ont tendance à vous juger, surtout. Hein. Ben là, un message d'une auditrice qui préférait qu'on ne dévoile pas son prénom, donc je lui donne un prénom d'emprunt, je vais l'appeler Aurélie. Et elle nous écrit « Je ne veux pas d'enfant, c'est un choix, mais je suis mal considérée par mon entourage, étant donné que je suis en couple depuis longtemps. Je suis censée avoir des enfants, pourtant, ça ne regarde que mon couple, et nous sommes d'accord sur le sujet avec mon mari. Je ne comprends pas cette pression sociale qu'on essaie de me faire subir. Mmh. » Ça confirme ce que vous disiez, Lise. Hein.
Oui, je me suis d'ailleurs un peu enflammée à ce sujet avant, c'est vrai. Après, il faut quand même garder en tête que ces parties de nous dont on est peut-être un peu moins fiers, comme les parties jugeantes, les parties critiques, les parties qui se comparent, elles font quand même partie de l'être humain. Ça vient de manière instinctive, en fonction des émotions qu'on vit. Après, le tout, c'est d'en être conscient et puis de faire le choix aussi de pouvoir prendre un peu de recul et puis d'observer les choses de manière plus objective.
Toujours dans les regards qui jugent, hein, là c'est Véro qui nous écrit « J'ai été une femme au foyer, mais quand votre mari vous largue avec vos enfants à 40 ans, on est bien contente d'avoir appris un métier et de garder un pied dans le monde du travail. » Je pense que Véro ne doit pas être la seule dans ce cas.
Hein. Mm-hmm. Ouais, ça donne la nausée, ce genre d'histoire. Là, encore une fois, il faut saluer la force et le courage de se relever. C'est aussi ça, avoir confiance en soi. C'est avoir confiance que quoi qu'il arrive, j'arrive à me relever et à avancer avec ce que je vis.
J'essaie de regarder les nouveaux messages qui arrivent. Bon, on vous avait promis déjà tout à l'heure, ça c'est le joli message. Hein. On a reçu plein de messages très intéressants. Certains sont touchants, d'autres sont révoltants. Celui-ci, je le trouve attendrissant. Lise, c'est le message de Denise. Elle nous écrit « Je suis une vieille dame de 75 ans qui a connu la Suisse avant le droit de vote des femmes. Ne croyez pas que nous étions malheureuses et soumises à l'époque. Nous avons créé la Fédération romande des consommatrices qui nous a permis de nous faire entendre sur le plan politique. Et bien souvent, nous disions à nos maris ce qu'ils devaient voter, sinon on leur faisait la grève du câlin. » Ah, j'adore. Je suis tombé amoureux du message de Denise. Hein.
Moi aussi. J'adore parce que on entend rarement ce genre de message où, malgré la difficulté peut-être politique ou sociale, on arrive à rester ancré, confiante et à vivre finalement ce qu'on a à vivre de manière sereine et alignée. Et je pense effectivement qu'il y a beaucoup de choses à dénoncer, beaucoup, beaucoup de victimes, beaucoup de personnes fragilisées, mais il y a aussi des sacrés bonheurs à relever.
C'est clair.
Et puis, j'aimerais juste revenir un petit coup là sur ces croyances et puis sur ces stéréotypes parce que en psychokinésiologie, en fait, on considère que tout ce qu'on vit laisse des traces et imprime comme une sorte de fichier à l'intérieur de notre cerveau qu'on appelle croyance. Admettons que voilà, étant enfant, vous n'aviez jamais tellement de place pour vous exprimer dans la sphère familiale, par exemple. Vous avez pu, à ce moment-là, ancrer en vous la croyance de « tout ce que je dis est inintéressant », par exemple. Et ça, quand on a des blessures, quand on a des épreuves de vie comme ça, c'est presque souvent, presque toujours le cas où on a une croyance qui s'imprime à l'intérieur de nous. Et cette croyance, ben, ça peut être « je ne serai jamais à la hauteur »,« je ne mérite pas d'être aimée »,« je suis faible »,« je dois m'oublier pour pouvoir vivre », etc. Et puis ça, ça va faire comme un effet aimant sur tout ce qu'on va vivre après. Parce qu'on est tellement convaincu que le cerveau va attirer en gros toutes les épreuves dans notre vie qui vont renforcer cette croyance, parce qu'on en est convaincu. Et là, tout le job, tout le défi à l'heure actuelle, c'est de pouvoir modifier ces croyances. Et c'est possible. Ça demande un travail sur soi, ça demande un effort de transformation des blessures, ça demande peut-être de faire appel aux neurosciences pour pouvoir reprogrammer un petit peu ce qui se passe dans notre cerveau. Mais c'est possible. Mais comment voulez-vous que cette poignée de femmes militantes puissent s'imposer, pas contre les hommes, hein, on parle bien d'égalité, pas d'adversité, on est d'accord.
Bien sûr.
Mais pour moi, c'est capital que chacune puisse s'enraciner et prendre conscience de sa force. Mais je leur dirai mille fois encore s'il faut dans cette émission, mais c'est vraiment mon défi aujourd'hui.
On sent que ça vous importe.
Voilà. Hein. Mais oui, parce qu'on n'a pas besoin de 5 chênes dans une forêt qui sont bien enracinées puis qui combattent pour tout le monde. On a bien besoin que chaque arbre soit enraciné.
Ça, c'est une très jolie image.
Oui, pour moi, il ne faut pas tout ce qu'il faut est faux. Donc, je vais changer mes mots, mais voilà, j'ai à cœur que chacune, même si elle a vécu des difficultés, même si elle a été victime de quelque chose, puisse se consolider de l'intérieur et arrêter de se cacher derrière cette poignée de militantes. Ça déchargera aussi la pression sur les militantes, hein, parce qu'elles combattent, mais finalement, ce n'est pas une question de guerre, c'est une question de posture.
Je suis impressionné parce que Lise, vous êtes toujours très investie dans ce que vous dites, mais alors aujourd'hui, je sens que ce sujet vous tient à cœur comme jamais. Hein. Et je pense que nos auditeurs et auditrices sont suspendus à vos lèvres aujourd'hui.
Hein. Oui, vous savez, je suis très émue parce que j'accueille en cabinet tellement de femmes dévastées.
Il y en a beaucoup.
Fragilisées.
Il y en a plus qu'on pense.
Ouais.
Vous les aidez à se reconstruire ?
Mon but, c'est de les aider à céder elles-mêmes.
Voilà. Leur donner les clés.
Voilà.
On dit toujours, hein, quand quelqu'un a faim, il ne faut pas aller pêcher. Il ne faut pas lui apporter du poisson, il faut lui apprendre à pêcher. Hein.
C'est exactement ça.
C'est un peu la même chose en psychologie.
En
hein.
psychokinésiologie, le but, c'est de rendre la personne qui vient nous voir autonome face à la gestion de ce qu'elle est en train de vivre. Et vraiment, ça me touche, parce que les blessures de femmes, ce n'est pas forcément des blessures liées aux hommes, en fait. Des fois, on est les championnes du monde pour se mettre la pression toute seule. Hein.
Ah ouais.
Puis se juger de manière malveillante toute seule.
Hommes et femmes confondus, hein. Femmes et hommes confondus, j'en
exactement.
Pense. Hein. Ouais, tout
ouais.
À fait. 079 127 70 60. On a encore beaucoup, beaucoup de messages à voir. 47.
Service compris.
Service compris.
Et vos messages, hein, rythme cette émission, service compris, être une femme en 2021, de l'individuel à la collaboration collective. Je vous rappelle une dernière fois notre WhatsApp. Je ne sais pas si on aura le temps de tout relayer, hein, au 079 127 70 60. Vous sentez toujours de taille, Lise, hein, à voir un peu tous ces messages.
Hein. Surmotivée.
Ah, elle est motivée, Lise, aujourd'hui, comme jamais. Hein. Message de Pierre, hein, Pierre qui est papa, il nous écrit « Je suis inquiet quand je vois l'hypersexualisation du corps de la femme, de la très jeune femme, même dans certains clips vidéo et dans certaines séquences sur Internet. J'ai l'impression que certaines femmes réclament du respect de la part des hommes, et comme elles ont raison, mais que dans un même temps, elles ne se respectent pas elle-même, j'interdis, moi, à ma fille de 15 ans, de s'habiller de façon provocante à l'école. » Voilà pour le message de Pierre, très chère Lise.
Voilà un message qui fait reflet avec la réalité. Hein. C'est vraiment très, très compliqué de répondre à cette question, parce qu'il s'agit tellement de conscience individuelle et puis finalement...
De la manière dont chaque personne se conçoit.
Absolument, voilà. Merci.
Mais de rien.
J'allais perdre mes mots, vous m'avez sauvé.
Il y a quand même un homme dans cette émission. Hein.
Ah,
tout ça pour dire que... Vous avez parlé de, comment on l'a dit dans le titre,
de complémentarité aussi.
Collaboration collective,
exact,
voilà. Ah ben nous voilà. Collaborons dans cette émission,
nous sommes complémentaires.
Femmes et hommes, exactement. Et j'en suis très honoré, d'ailleurs, sachez-le.
Moi aussi. Non, mais effectivement, ces femmes qui dénoncent, on voit beaucoup de mouvements maintenant, balance ton X, Y, ces mouvements MeToo. Alors, moi, je trouve ça extrêmement libérateur, parce qu'il y a des études qui ont été faites et qui ont montré que finalement, ce qui est le plus lourd à porter pour une victime, ce n'est pas tellement l'événement en lui-même, mais plutôt le secret irrelatif durant des années où elles ont dû se taire, où elles ont dû garder ça pour elles, où elles ont mis un couvercle sur ce qu'elles ressentaient. Donc, pour moi, ça, tant que ça fait en justice, j'ai envie de dire, il faut que ça aille jusqu'au bout, qu'il y ait vraiment un mouvement dans la justice qui se fasse, qu'il y ait voilà, une plainte, etc. Pour autant que ça soit fait, pas uniquement sur les réseaux sociaux, mais clairement dans les actes. Mais moi, ce qui m'importe le plus, c'est le après. Mais qu'est-ce que je fais de cette blessure? Est-ce que ça va suffire de balancer ton je sais pas quoi? Non, je crois pas.
Oui, parce que souvent, on entend parler de ces mouvements, mais on suit assez rarement les personnes après.
C'est ça. Ouais. Et après, il se passe quoi? Parce que là, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher le soulagement, puis la guérison à l'extérieur, en faisant intervenir la justice, en dénonçant, etc. Ce qui est très bien, je le redis. Par contre, après la blessure intérieure, il faut en prendre soin. Et ça ne va jamais suffire juste de balancer. Il faut soigner après.
C'est la plaie qui guérit mais qui ne cicatrise jamais complètement. Il reste toujours des traces. Très intéressant en tout cas ces messages. Peut-être assez rapidement également. Cette dame qui nous dit, là aussi je crois qu'elle n'a pas envie qu'on dise son prénom. Elle nous explique dans un très long message, je résume, qu'elle est accompagnante de naissance depuis 7 ans maintenant. Et elle nous dit, vous allez nous dire ce que vous en pensez Lise, une chose qui me marque beaucoup, c'est de constater à quel point la femme a perdu confiance dans ses ressources et capacités à mettre au monde. Selon cette personne, c'est un savoir inné, intuitif, depuis que le monde est monde. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'une femme, d'après ce que dit cette auditrice, a tendance à dire « c'est le gynécologue qui m'a accouché ». Cette dame dit « mais non, ce n'est pas le gynécologue, c'est la femme qui a accouché, c'est elle qui met au monde les enfants. Il faut qu'elle s'en rende compte, il ne faut pas qu'elle l'oublie ».
Oui, et je suis hyper d'accord avec elle, et puis ça me motive à faire une émission une fois
c'est une
sur
bonne idée, ça.
La naissance, le postpartum, parce que je pense qu'il y a fort à dire là sur le bien-être de ces mamans.
Voilà. Si la vulnérabilité devenait une force, Lise Jean-Bourquin, on rappelle que vous êtes psychokinésiologue, vous êtes notre intervenante rêvée dans ce genre de sujet, on va donner quelques clés pour vous mesdames, pour cette dernière partie d'émission. Peut-être la première clé, Lise, ce serait se montrer authentique avec sa vulnérabilité. La femme des années 80 qui jouait les mecs, comme dans la chanson de Michel Sardou, c'est fini, ça, on n'en veut plus.
Alors écoutez, pour moi, la vulnérabilité, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, parce que le rapport aux émotions, vous l'aurez compris depuis le temps qu'on fait des services compris, que pour moi, c'est la base de la compréhension du fonctionnement de l'être humain. Et puis, j'observe que souvent, quand on cherche à être forte, on cherche d'abord à masquer sa sensibilité et à masquer son émotivité.
Le couvercle. Le fameux couvercle.
Et ça, pour moi, c'est hyper dangereux, parce qu'on se dit que porter un masque, vu les circonstances aussi, ça vaut mieux que de s'effondrer. Alors qu'en fait, la connexion à soi, pour moi, elle commence par oser montrer qui on est, oser se montrer authentique. Puis si on arrête de se mentir à soi-même, on va aussi arrêter de mentir à l'entourage, et puis de prendre chacune des émotions comme une opportunité de grandir et d'évoluer. Puis tout devient beaucoup plus clair. Sauf que maintenant, on croit qu'être courageuse, ou courageux finalement, c'est la même chose.
Là, je pense qu'on est tous logés à la même enseigne, quel que soit le sexe.
Alors, le courage, il faut savoir que étymologiquement, ça vient du latin, ça vient du mot cœur. Pour moi, le courage, c'est le langage du cœur. C'est non pas résister, être courageux, on est résistant à la douleur, on est résistant à l'épreuve. Non, pour moi, être courageux, c'est oser. Oser dire qui on est, oser affirmer son avis, enfin, en restant ouvert à l'avis des autres, mais oser être soi dans sa difficulté à vivre certaines choses, dans sa façon d'être touché à d'autres moments. Et pour moi, c'est capital pour moi, la force, la vulnérabilité n'est pas à prouver. Elle est là.
Oser rester fidèle à ses émotions aussi, Lise. Est-ce qu'une maman, par exemple, a le droit de pleurer devant ses enfants, sachant qu'elle est censée être un modèle de force pour ses enfants?
Alors, en parlant de modèle, qu'est-ce qu'elle a envie de donner comme modèle à ses enfants? Est-ce qu'elle a envie de motiver ses enfants à mettre un couvercle sur leurs émotions, à ne pas parler de leur tristesse, à ne pas parler de leur colère? Comment elle pourrait accompagner ses enfants s'ils n'apprennent pas à verbaliser ce qu'ils ressentent? Donc là, pour moi, il y a un souci de cohérence. Si je ne montre pas mes émotions à mes enfants, comment est-ce que je peux attendre d'eux qu'ils me montrent les leurs? Ce que je fais en mettant un couvercle sur mes émotions, si je dis non, je ne pleurerai jamais devant mes enfants, c'est justement une image de force rigide avec un couvercle sur ce qui vit.
Ne pas tomber dans le piège de la honte, hein, si quelqu'un n'a pas été correct avec vous, c'est à cette personne d'avoir honte, hein, c'est pas à vous la victime. Hein.
Mm-hmm. Alors par rapport à la honte, il faut savoir que c'est ce qui bloque le langage de la vulnérabilité. Souvent on n'ose pas dire qui on est ou on n'ose pas refuser quelque chose, on n'ose pas se positionner face à quelque chose parce qu'on est bloqué par la honte, parce qu'on a peur d'être jugé, parce qu'on a peur d'être comparé. Et il faut savoir que la honte, c'est une émotion humaine qu'on a tous, tout le monde a ressenti à un moment ou l'autre la honte.
Ouais.
Et ça, franchement, il y a fort, fort à dire, et je pense pas qu'on aura le temps ce matin, mais si je peux juste suggérer une lecture.
Allez-y. Ouais, j'allais vous demander si vous aviez une lecture à nous proposer. Là.
Alors, les travaux de Brené Brown, qui est chercheuse, travailleuse sociale et chercheuse, a vraiment fait beaucoup d'études sur la vulnérabilité. Donc, elle a fait une conférence TEDx en 2010, Brené Brown. Et puis, son livre, Le pouvoir de la vulnérabilité, mais aussi en lumière, ce qui est honteux pour les hommes et ce qui est honteux pour les femmes. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, on n'est pas bloqué. Les hommes et les femmes, nous ne sommes pas bloqués par les mêmes choses. Pour un homme, la honte, c'est d'échouer, c'est d'être licencié, c'est d'être au chômage, c'est de ne pas être performant dans l'intimité. Pour une femme, la honte, c'est de hurler sur ses enfants, c'est de ne pas être la mère parfaite qu'elle voudrait, c'est de ne pas réussir à subvenir aux besoins de sa famille financièrement. Enfin, on remarque que malgré toute l'égalité qu'on cherche à atteindre au niveau politique, au niveau social, il y a quand même toujours un monde féminin et un monde masculin qui n'est pas dans l'adversité, mais dans la complémentarité. Et pour moi, c'est ça qu'il faut nourrir, c'est cette richesse-là.
Quand vous n'êtes pas sur Radio Fribourg, Lise, on conseille à tous nos auditeurs de vous retrouver sur ce site internet qui lui aussi est tellement riche d'enseignements, lisejeanbourquin.ch, hein, tout simplement.
Oui, absolument.
Et puis vous nous promettez, vous n'avez pas le choix, de revenir tout bientôt dans cette émission. Hein.
Ah, mais avec un grand plaisir.
Merci en tout cas.